Vous écoutez RTL.
RTL Matin,
Yves Calvi.
Très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement et délégué général d'En Marche, Christophe Castaner.
Bonjour Christophe Castaner.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ce matin sur RTL. Après votre longue soirée hier face à Jean-Luc Mélenchon dans l'émission politique sur France 2, c'était un test important pour le leader de France Insoumise qui doit crédibiliser son rôle, le premier opposant. Une question simple, il a réussi hier soir ?
Je ne suis pas bien placé pour juger cela. C'était un test important pour lui. Ça l'était aussi pour moi. Il faut assumer ces moments de tension. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a d'un côté le pragmatisme que j'essaye de porter, que le gouvernement porte, et Jean-Luc Mélenchon qui est dans l'idéologie et qui a systématiquement une réponse globale, systémique, qui ne correspond pas à la réalité du monde dans lequel nous sommes.
Oui, c'est ce que vous avez tenté de démontrer. Avant vous, il a fait un lapsus en présentant la députée Danielle Obono, députée France Insoumise, comme une militante antiraciste et antisémite, avant de se reprendre immédiatement, évidemment, parce que c'était trop énorme. Mais il vous a convaincu sur le fond, sur la laïcité ?
Non, s'il y a bien un sujet où il ne m'a pas convaincu, c'est celui-ci. On voit d'ailleurs comment son groupe, et pourtant ils ne sont pas très nombreux, ils sont moins de 20 députés à l'Assemblée nationale, portent des positions totalement différentes. Il veut, du coup, pour s'en sortir, radicaliser. Le moment où il explique que Manuel Valls est d'extrême droite montre toute la limite.
Des positions d'extrême droite, a-t-il
oui,
précisé ?
Il commence par dire qu'il est d'extrême droite, puis il se corrige
et
ensuite.
Ça veut dire quoi, à votre avis ?
On sent bien qu'il n'y a pas de ligne qui domine aujourd'hui. Qui a une ligne, celle des indigènes de la République, une partie de ses troupes qui ont fait sa campagne, qui ont voté pour lui, qui aujourd'hui accompagne une forme de radicalité dans la pensée par rapport à la religion. Et puis, il y a sa vraie laïcité, sa laïcité historique que je lui reconnais, mais il a perdu pied sur ce sujet.
Mais il dit, il a essayé d'expliquer qu'il comprend que des gens qui ont souffert du racisme puissent se sentir mieux finalement entre eux, pour s'exprimer sur la France. Donc, ce communautarisme, il le comprend, mais lui, il n'en est pas. Voilà ce qu'il essaye de dire, les deux positions qu'il essaye de tenir.
Mais moi, je crois qu'il faut comprendre les causes, notamment sociales, du repli sur soi. Mais il ne faut jamais accepter le communautarisme. Parce que si vous acceptez...
Le comprendre, c'est déjà l'accepter,
ça vous dit ? Il faut comprendre les causes qui vous amènent
lui, quand il dit
à la radicalisation dans certains cas.
Ça veut dire
cas.
Qu'il l'accepte déjà ?
Ah ben, de fait, il l'accepte et il soumet sa pensée à cette radicalité-là, parce que c'est une forme de radicalité que de poser le principe du radicalisme avec des règles qui, quelquefois, ne respectent pas les valeurs de la République, notamment celle de l'égalité femmes-hommes.
Et dans le fond, cette ambiguïté, elle traduit quoi ?
Elle traduit aujourd'hui des divergences très fortes dans son mouvement.
Donc il ne veut pas faire le ménage dans son mouvement.
Une absence totale de pensée structurée qui, aujourd'hui, ne permet pas de défendre les valeurs de la République.
Et dernière question, pourquoi pensez-vous qu'il ne fait pas le ménage ?
Parce que, au fond,
ça l'arrange, parce que finalement, dans le fond, il est foncièrement, effectivement, ambigu.
Non, je crois surtout qu'il s'aperçoit qu'il est seul. Il est seul contre tous, de façon systématique.
C'était votre argument hier,
d'ailleurs. Il est contre les syndicats, il est contre ceux qui l'ont empêché, si on l'écoute, d'être président de la République. Il est contre les autres partenaires et pays européens. Il a quelques maigres troupes, il ne va pas aujourd'hui toutes les insulter.
Christophe Castaner, on attend d'ici la fin de l'année la décision du gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes. On en parlait tout à l'heure avec Alba Ventura. Quelle est la position du parti majoritaire sur ce dossier ?
Vous savez, il y a une demande d'expertise. Cette expertise, elle sera rendue. Moi, avant d'avoir une opinion, je voudrais
La République En Marche ne prend pas position. Si l'expertise donne un résultat, Michel Michou, et pose plusieurs hypothèses sur la table...
On ne va pas anticiper ce que sera le résultat de l'expertise, mais ce serait idiot de demander une expertise et d'avoir un avis avant.
Ouais. Vous, Christophe Castaner, élu et ministre de la République, quelle est votre conviction ?
Mon sentiment est qu'on est sur un projet qu'on traîne depuis 50 ans. Il est nécessaire de faire une photographie pour voir s'il est toujours d'actualité. Cette photo, on ne l'a pas fait parce qu'au fond, on a opposé les défenseurs, les pour, les contre. On n'a pas pris le temps de faire cette photographie. C'est ce que j'espère que nous aurons dans le cadre du rapport qui va être remis dans les jours qui viennent.
Le dossier est-il toujours d'actualité ? Autrement dit, est-ce que le projet de nouvel aéroport dans Notre-Dame-des-Landes est toujours pertinent économiquement, en termes de lutte contre la pollution, etc. C'est ça. Vous vous posez cette question ?
Bien sûr, c'est les réponses que j'attends, moi, de l'expertise qui a été demandée.
Si l'expertise dit bien non, effectivement, économiquement, c'est plus pertinent.
Mais si l'expertise nous dit que ça n'a plus aucun sens, je ne défendrai pas ce projet. Si par contre l'expertise nous explique que fermer deux aéroports, parce que c'est quand même ce dont on parle, notamment celui de Saint-Jacques-de-la-Lande à Rennes, qui est juste à côté de la ville de Rennes, et on sait aussi les impacts qu'il y a sur l'environnement, sur les habitants, ça fait aussi partie des sujets sur lesquels je veux des éclairages. Mais je pense que quand on demande une mission d'expertise, il vaut mieux attendre ses conclusions avant d'avoir un avis tranché.
Emmanuel Macron a toujours dit qu'il était favorable au projet.
Oui, mais il a demandé à avoir cette photographie, parce que notre position d'il y a 3 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 30 ans. Elle doit évidemment évoluer. Je parle de la position des décideurs publics.
Ouais. Il y a un problème d'ordre public. Même Nicolas Hulot, dans le Nouvel Observateur, le reconnaît sur la ZAD.
Oui, vous avez raison. Ce sera extrêmement difficile de dire à ceux qui aujourd'hui occupent de façon quasi militaire le site, se prépare au combat, il faut assumer de dire les choses, ce sera une vraie difficulté, ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte.
Christophe Castaner, vous avez réussi à conserver votre poste de ministre des Relations avec le Parlement. Les députés, cette semaine, ont introduit des règles concernant les frais de mandat. Ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Le principe très clair du remboursement sur facture, que les Français, beaucoup de Français salariés connaissent, n'a pas été adopté. Pourquoi ? Est-ce que vous le regrettez d'ailleurs ?
Alors, je vais répondre en deux temps. D'abord, vous rappelez, comme vous l'avez dit, que je suis secrétaire d'État et qu'on n'a pas vocation à s'ingérer dans la gestion de l'Assemblée ou du Sénat. C'est un principe de séparation des pouvoirs.
Ça vous concerne un peu quand même,
mais
la vie
j'étais
des députés.
J'étais député et moi, j'ai toujours joué la transparence. J'ai publié ma consommation d'IRFM, ces fameuses indemnités, dès 2012 sur mon site internet. Moi, je suis favorable à un système beaucoup plus rigoureux. Je pense qu'on peut demander une certification à un expert comptable chaque année sur la liste des dépenses autorisées, faire certifier, et s'il n'y a pas de quitus, à ce moment-là, il y a un contrôle.
Faire que chaque député, finalement, fasse appel à un expert comptable ?
Un peu comme chaque chef d'entreprise, voire le boulanger, le boucher, des choses qu'on trouve dans la vie commune et qu'on doit aussi retrouver en politique. Ouais. Donc je pense qu'on peut aller plus loin.
Mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout simplement comme en Allemagne, comme en Angleterre, comme en Norvège, qui pousse la transparence très loin, qui consiste effectivement à se faire rembourser sur notre de frais ?
Parce qu'en gros, il faut embaucher une petite centaine de personnes à l'Assemblée nationale et peut-être autant au Sénat. C'est pour ça que ma solution qui s'appuie sur l'expert comptable...
Quand on a des principes, on n'est pas moins... les élus ne sont pas moins de qualité. Le Parlement coûte plutôt moins cher dans les pays qui ont adopté ce système.
Madame Martichoux, vous n'aimez pas... Vous n'avez pas confiance dans les experts comptables ? Moi, oui. Et je pense que dans chaque circonscription, on peut trouver un expert comptable qui va valider vos comptes. Moi, je leur fais toute confiance. Mais si une autre solution du type embaucher 100 personnes est nécessaire, pourquoi pas ? Moi, je suis pour la transparence totale. Je me la suis
appliquée. C'est pas démagogique, la transparence totale ?
Non, je l'ai fait depuis 2012. J'ai pas le sentiment que ça a eu un effet électoral sur mon élection ou pas. Mais par contre, ça me semblait nécessaire de publier ma déclaration de patrimoine, alors que ça n'était pas obligatoire, et de publier ma consommation d'indemnité de frais.
François Drogi n'exclut pas de réviser encore les règles d'ici la fin du quinquennat. Est-ce qu'il faut qu'il le fasse ?
Je l'encourage.
Est-ce que vous l'encouragez ? Est-ce que d'ici la fin du quinquennat, ce soit
C'est l'esprit de la loi confiance, qui était la première loi qu'on a votée sous cette mandature. Je sais l'écart qui existe entre nos concitoyens et les politiques. La seule réponse, c'est la transparence.
Est-ce que le Sénat doit adopter des règles à peu près analogue à celle du Parlement.
Là, le Sénat se prononcera dans les jours et dans les semaines qui viennent. Je lui fais confiance. Vous savez, le Sénat a montré très régulièrement, et notamment ces dernières années, une capacité de modernité que personne n'imagine. Et dans les faits, ils sont extrêmement modernes et très transparents aujourd'hui.
Donc, dans quelques semaines ou quelques jours, le Sénat va aussi modifier ses règles. Est-ce que le nouveau secrétaire d'État, Olivier Dussopt, va rejoindre En Marche ?
Je ne sais pas.
Mais ce ne sera pas logique ?
Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire.
Non, mais est-ce que ce ne serait pas logique ? Maintenant qu'il a été viré du PS, manu militari,
instantanément,
après avoir été nommé, est-ce que ce
ne
serait pas logique ?
Et s'il le souhaite, il est le bienvenu, parce qu'on a des hommes qui viennent de la gauche,
vous
du PS, comme moi. Non, parce qu'aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui est composé à moitié de membres du gouvernement qui ne sont pas encartés. On n'est pas obligé d'être encarté dans un parti ou un mouvement politique.
Il y en a trois qui sont venus de la droite qui ont fait la
qui
démarche.
Nous ont rejoint. Le Premier ministre, aujourd'hui, n'est pas dans un mouvement politique. Il était exclu des Républicains.
Oui, après, il y a les techniciens qui ne sont pas encartés.
Moi, je considère qu'on peut être un bon ministre sans être encarté.
Mais est-ce que c'est sympa, parce que les militants d'En Marche, quand ils voient Olivier Dussopt qui a voté contre le budget, le défendre quelques jours plus tard au Sénat, ils n'étaient pas un peu gênés aux entournures, non ? Ça n'a pas fait grincer des dents chez vos militants ?
Mais vous savez, il y a des gens qui sont au gouvernement, voire même Premier ministre, et qui, avant le premier tour de la présidentielle, n'étaient pas dans la campagne d'Emmanuel Macron. C'est ça le dépassement politique, c'est d'assumer que vous avez des gens qui s'engagent avec vous et qui ne viennent pas de votre famille, de votre écurie politique.
Enfin, là, en ce qui concerne Olivier Dussopt, non seulement il n'était pas dans la famille, mais il a voté contre le budget. Il fut un temps où c'était un marqueur politique décisif pour rejoindre ou pas une famille.
Il ne nous avait pas rejoint encore. Mais vous savez, comme moi, parce que vous êtes attentive à la vie politique, Olivier Dussopt fait partie de cette seconde gauche rocardienne qu'on a connue au sein du PS. Il a toujours été assez proche de nous. Il nous a rejoint, je l'en félicite.
Après, une petite incartade du côté de l'opposition en quelques jours. Ce parti, le vôtre maintenant, celui que vous présidez, ou plutôt vous êtes délégué général, devenait une coquille vide avant votre élection. Qu'est-ce que vous vouliez en faire ? Un parti de supporters ?
Moi, je ne crois pas que ce soit une coquille vide. Vous savez, dans les jours qui ont précédé mon élection, élection, il y avait plus de 300 personnes qui adhéraient au mouvement La République En Marche. Ce que je veux en faire, c'est un laboratoire d'idées, c'est un mouvement sur lequel le gouvernement pourra s'appuyer, c'est un mouvement utile, utile localement, utile nationalement.
Un parti de service qui va rendre des services ?
Un mouvement qui peut rendre des services, et je trouve que c'est bien aussi que les partis politiques qui ne faisaient que de la petite politique aujourd'hui soient des acteurs de terrain, des acteurs de la citoyenneté. C'est ce que je veux faire avec La République En Marche.
C'est pas du clientélisme de transformer un parti en parti de service ?
Ben non, parce qu'être efficace, faire en sorte d'accompagner des réfugiés dans l'apprentissage du français, par exemple, je pense que c'est aussi faire de la politique. C'est pas
du
clientélisme.
Un peu comme les associations, les syndicats, finalement.
Oui, mais c'est pas gênant de regarder ce que certaines ONG font et font bien.
Merci Christophe Castaner d'avoir été avec nous ce matin sur RTL.
Sur Notre-Dame-des-Landes, j'attends l'expertise, nous dit Christophe Castaner, et je me rangerai à ses conclusions. Sur le train de vie de nos députés, Christophe Castaner propose, comme il le fit depuis 2012, une publication des comptes confirmée par expert comptable. Et puis on notera un hommage à la modernité du Sénat, du secrétaire d'État aux relations avec le Parlement. Merci à tous les deux. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr.